Noir américain, solo et optimiste, c'est la règle de trois de Eddie Harris. Noir américain, tout attaché en un seul mot, comme il l'écrit dans son roman Harlem. Pour cet écrivain, né à Indianapolis, ayant grandi jusqu'à ses 1m93 à Saint-Louis, Missouri, et domicilié aujourd'hui à Pranzac, Charente, pas d'Afro-Américains qui tiennent. L'Afrique est loin, les liens ont été coupés il y a des siècles. Cet homme libre, à qui des parents aimants ont appris à ne pas subir le système, aimerait que la population noire américaine ne soit plus ni afro, ni victime. Tout simplement noir, oui, et américain de toute évidence, car ses racines, ce grand voyageur ne les a pas trouvées en Afrique, où il a pourtant passé un an, mais aux archives d'une mairie de Virginie. Il y a découvert que son arrière-grand-père, Samuel, était esclave et savait lire. Solo, il est, solo, il restera. La solitude, c'est moi, dit-il avec le sourire. Ce polyglotte a vécu seul en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Suède, mais aussi en Bretagne, à Bordeaux, dans le Midi ou dans le nord de la France. Il n'a que 16 ans quand il part pour la Californie. Ce sera ensuite la traversée du continent nord-américain en bus, du Canada au Mexique, puis celle de l'Europe en train à 18 ans, l'Asie, et enfin les 4000 km du Mississippi de son enfance en 1985 et en solo, dont il a tiré un livre fondateur. À l'époque, il était profondément déprimé, songeait au suicide, mais les bords du fleuve l'ont ramené à la vie.
Part of my wanting to be on this river is to get away from the world and yet be in it at the same time.
En 2014, il a retrouvé ce fleuve mythique pour une deuxième descente en canoë, filmée cette fois pour le documentaire River to the Earth. Sur le plan politique, Eddie Harris, l'écrivain voyageur, se veut délibérément optimiste et humaniste. Par exemple, le mouvement antiraciste Black Lives Matter, notamment par la mixité ethnique des manifestants, lui fait dire que le changement est en marche. Et c'est au nom des mêmes valeurs que Eddie Harris s'est résolument engagé depuis des mois en faveur de Joe Biden. Optimiste.
Alors, optimiste sur les États-Unis, on y reviendra dans un instant, hein, tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'êtes encore à l'heure qu'il est, après l'étrange nuit dernière, évidemment, et ces élections incertaines. Mais on va commencer par le Mississippi, quand même, Eddie Harris. Et par ce roman, donc Mississippi Solo, qui était votre premier roman, hein, vous l'avez écrit au milieu des années 80.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre plus de 30 ans donc, pour que ce roman soit traduit et publié en français?
Une très bonne question. Je ne sais pas. Ah. Mais peut-être en préparation pour Mississippi Solo 2, qui va apparaître l'année prochaine, qui part de ce voyage, mais le voyage où l'équipe de tournage n'était pas là. Mm-hmm. Parce que j'avais des rencontres qui étaient formidables et je voulais raconter tout ça.
Mm-hmm. Alors le Mississippi.
Ben justement, oui, c'est un fleuve mythique, on le connaît, c'est celui qui traverse les États-Unis du nord au sud. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, en tant qu'Américain et en tant qu'écrivain, le Mississippi?
Mm-hmm. Rien.
Rien?
Non.
Rien,
mais alors... Je plaisante. Déjà, c'est le fleuve de mon enfance. J'ai grandi à Saint-Louis, qui était juste à côté du fleuve. J'avais une relation avec ce fleuve depuis l'âge de je ne sais pas combien de...
Tout petit.
Mm-hmm. Tout petit. Et pour moi, c'est mon jardin. Mm-hmm. Quand j'ai décidé de faire quelque chose de grandiose, naturellement, c'était le Mississippi. Parce que c'était quelque chose que je connaissais très bien. Le mythe de Mark Twain, Huckleberry Finn, de tout ça, c'était... En plus, ça représente, pour moi, les États-Unis. Ça coupe le pays en deux. C'était la frontière avant, et maintenant, c'est quelque chose qui lie le Est-Ouest et le Nord-Sud, qui divise en même temps. Donc c'est quelque chose qui représente tout le pays.
Et vous racontez dans ce récit, Eddie Harris, aussi que quand vous avez fait la première fois cette descente du Mississippi donc dans les années 80, en allant du nord au sud comme ça, vous aviez peur en arrivant dans le sud parce que vous étiez noir?
Non, j'étais averti contre cette possibilité de problème. Mmh. Et moi, je n'avais pas peur parce que je suis toujours trop naïf. Mmh. Et optimiste. Donc, mm-hmm. quand je m'embarque en quelque chose, c'est pas avec la peur qui est omniprésent. Mm-hmm. C'est quelque chose que je voulais faire et je me suis lancé comme ça. Mm-hmm.
Donc, vos amis vous mettaient en garde, en tout cas.
Mais un ami spécifique, Robert, mm-hmm. qui parlait de Minnesota où il n'y a pas beaucoup de Noirs, vers le sud où les gens ne sont pas trop appréciants des Noirs toujours.
Alors cette question raciale justement qui est récurrente notamment aux États-Unis, il y a une polémique autour d'un mot, Nadia en l'occurrence, c'est une polémique qui se déroule au Canada mais qui aurait pu avoir lieu effectivement sur un campus américain.
Dans une fac américaine en effet, c'est une histoire qui a commencé le 23 septembre à l'université d'Ottawa donc au Canada. Pendant un cours qu'elle dispense, une enseignante évoque la resignification subversive, c'est-à-dire le fait pour une minorité de se réapproprier une insulte dont elle a fait l'objet. Alors elle cite pour l'exemple le mot anglais queer qui est à la base une insulte homophobe mais que la communauté gay a repris à son compte, et elle a poursuivi en citant l'exemple du N-word, donc le mot nigger, nègre en français, sauf qu'elle l'a prononcé comme ça en entier, elle a dit nigger. Plusieurs étudiants se sont immédiatement indignés au motif, je cite, qu'une blanche ne devrait pas prononcer ce nom, y compris dans ce contexte académique, à la fac. Son nom, ses coordonnées ont évidemment été diffusées sur les réseaux sociaux. Plus important encore, la direction de l'université l'a désavouée puisqu'elle a été suspendue temporairement, et les étudiants qui voudraient pas participer à son cours en ont parfaitement le droit. Le recteur de l'université a publié une lettre dans laquelle il dit: les membres des groupes dominants ne sont pas légitimes pour décider ce qui constitue une micro-agression. Que vous inspire cette histoire qui a d'ailleurs toujours pas trouvé son épilogue, hein, on en parle encore beaucoup.
Oui, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis aussi, ouais. Mais moi je suis un peu anti-political correct. Et je pense que c'est un peu bête. Le mieux serait de parler ouvertement, de pas seulement de ce mot, parce que le moment où on dit le N-word, tout le monde sait qui est le mot. Donc pourquoi pas dire le mot nigger quand on parle de...
Y compris quand on est blanc, donc, puisque c'est ce qui est reproché à cette femme, c'est d'être blanche.
Oui, mais pourquoi pas? Si les Noirs ont le droit de le dire, pourquoi pas les Blancs et les n'importe qui? C'est un problème qui est un peu bête à mes yeux, parce que ça limite la conversation. Si on ne peut pas avoir une conversation honnête et ouverte, on est perdu. Huckleberry Finn est en train d'être enlevé des bibliothèques aux États-Unis.
Le roman de Mark Twain.
Oui.
Parce que c'est trop anti-politiquement correct. Ça va contre le politiquement correct, c'est ça?
Exact. Donc le problème pour moi, c'est qu'à quel point est-ce qu'on racialise tout?
C'est une question évidemment d'actualité aujourd'hui aux États-Unis qui suscite d'ailleurs des débats, des polémiques, des tensions. On rappelait tout à l'heure dans votre portrait d'Olivier Boucreux, rappelait que vous étiez optimiste. Et vous êtes engagé aussi, vous étiez engagé auprès de Biden, de Joe Biden. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, au vu de l'incertitude qui règne aux États-Unis, vous êtes toujours aussi optimiste et confiant?
Moi, je ne trouve pas l'incertitude. Je suis toujours certain qu'il va gagner. Finalement, à la fin des comptes, il va être le président.
Mais dans une situation d'un pays fracturé?
Une situation tendue. Mais je pense que finalement, quand je parle de l'optimisme, c'est... Je suis optimiste pour les États-Unis. J'ai confiance dans le peuple américain et le pays et les institutions américaines. Et je pense que finalement, on va continuer comme avant.
D'accord. Bah, merci.